Adichatz, oui, s'est déplacé en Bretagne et per escontra le signe Gaël Roblin, qui est un breton de Guingamp, qui nous fait le plaisir de nous parler de sa Bretagne et de la langue bretonne qui parle le plus bien possible. Merci Gaël Roblin de nous consacrer quelques minutes.
Salut tout en dude, adale Guingamp, misolo en brazo, kemer argoz, ag orei de glewet nebe treou da jilaouerien a jilaouerezet radio a zo etri an daouvor, neuze, eno kitania, c'est tu. Donc bonjour à tous et toutes, depuis Guingamp en Bretagne.
Et donc ouais. On est très content d'avoir su qu'à Guingamp on parlait d'abord breton avant de parler français, c'est une bonne nouvelle. Et justement cette ville de Guingamp, pour nos auditeurs qui la connaissent pas trop, elle fait partie de quelle partie de la Bretagne?
Alors elle fait partie de la partie ouest, qui est souvent appelée Basse-Bretagne, et d'un des 9 pays qui constituait la Bretagne, on va dire, historique, et qu'on appelle le Trégor, qui est un territoire qui est schématiquement situé dans la partie ouest des Côtes d'Armor, qui s'étend jusqu'à la rivière de Morlaix, voilà, et qui est un vaste territoire, et où la langue bretonne était et est encore parlée par des secteurs non négligeables de la population, et en tout cas, même ceux qui ne la parlent pas dans ce coin-là, ils ont un attachement affectif très fort. Donc voilà, c'est de ce territoire-là que je peux vous parler le mieux, puisque c'est là où j'habite, c'est de là que vient une grande partie de ma famille, mais même s'il y en a qui viennent d'ailleurs, même si j'ai grandi ailleurs moi-même. Et puis c'est aussi dans cette ville qu'il y a eu des grandes mobilisations récemment autour de la langue bretonne, dont on pourra reparler tout à l'heure.
Voilà. Et donc, Guingamp, c'est une ville de quelle importance, à peu près, pour une idée? Quelles sont les activités qu'on y trouve?
C'est une bonne question. Alors, Guingamp, c'est une ville de taille modeste en termes de population. Il y a un petit peu moins de 8000 habitants. Mais c'est une ville qui est très connue parce qu'on a une équipe de foot qui a longtemps joué en Ligue 1. Oui, et notre stade, notre stade qui s'appelle le Roudrou, qui est un mot breton qui veut dire les gays, parce qu'il est situé près de la rivière du Trieux qui traverse Guingamp, est mondialement connu. Il peut accueillir jusqu'à 16 000 personnes, donc deux fois le nombre d'habitants environ. Et historiquement, c'est une ville où on faisait le commerce du lin au Moyen-Âge. C'est ça qui a fait la fortune de la ville. Plus récemment, c'était dans les années 70-80, c'était l'électronique autour d'Alcatel. Toute la partie manufacture d'Alcatel, et c'est une ville qui a pris en pleine figure la vague de licenciements dans l'électronique au début des années 80, et qui a eu du mal à s'en relever, et qui a toujours du mal à s'en relever, il faut dire la vérité. C'était le début de la désindustrialisation, et c'était une main-d'œuvre féminine, peu qualifiée, qui a eu du mal à se recaser. Et l'industrie qui perdure et qui fait vivre beaucoup de gens, c'est l'industrie de l'agroalimentaire, de la transformation des produits de la terre, qui donne du travail à beaucoup de gens autour de Guingamp. Alors il y a tout un débat en Bretagne en ce moment sur le modèle agricole. C'est un débat qui est permanent, qui est très passionné, évidemment, à cause de ses conséquences environnementales. Mais la réalité, c'est que en termes de description pure, Guingamp est un territoire qui survit grâce à ça, quoi qu'on en pense. Voilà. Et c'est une ville donc, c'est une petite ville avec un rapport assez unique entre une petite classe ouvrière qui est là depuis longtemps, qui a travaillé avant dans des usines dont j'ai parlé tout à l'heure, et encore avant dans des usines agricoles ou des usines d'armement. Et puis, un environnement autour qui est très agricole, qui est resté très agricole. Agricole, on va dire, moderne, hein, avec des grandes exploitations maintenant. Et toutes les contradictions que ça sous-entend. Donc, c'est un territoire avec plein de, de dualité, de débat. C'est bon, voilà. Moi, je m'y sens bien. C'est un territoire riche d'histoire. Ouais. C'est un territoire riche d'histoire.
Et justement, Guingamp, de par sa situation à l'intérieur des terres, est un peu à l'abri de ce qu'on pourrait appeler l'invasion touristique bretonne. Il y a peut-être un peu plus d'authenticité que sur la côte.
C'est clair que bon, on est moins attractif à première vue. Après, s'il y en a qui nous écoutent et qui par hasard passent pas loin de Guingamp un jour, qui n'hésitent pas à visiter la vieille ville, parce qu'elle est vraiment très belle, très chouette. C'est la motte féodale qui constitue le château de Guingamp date, je crois, du 10e ou 9e siècle. Et tout autour de cette motte s'est construit tout un système de fortifications qui est intimement lié à l'histoire de Bretagne, à la perte de souveraineté de la Bretagne, au conflit entre les Bretons, les Anglais et les rois de France, qui auraient bien voulu mettre la main sur cette plateforme qui était un nœud militaire important. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué l'histoire de Guingamp, alors l'histoire du Moyen-Âge, évidemment. Puisque il y a eu deux sièges de la ville de Guingamp par le roi de France et la ville a résisté. Alors, toutes les villes bretonnes n'ont pas eu la même histoire, hein, puisque ça dépendait un peu des baronnies locales qui prêtaient allégeance ou pas à l'une des deux grandes puissances dont j'ai parlé tout à l'heure, ou pas. Et il se trouve que la ville de Guingamp, lors du siège le plus qui est resté dans les chroniques et qui a donné son nom à un morceau. Qui est joué encore par les bagades, voilà, les formations si populaires en Bretagne de musique plus vraiment traditionnelle, mais de musique bretonne du type pipe band. Donc ce morceau s'appelle « Sejis Guingamp », qui veut dire « le siège de Guingamp », et il évoque la résistance des habitants de Guingamp, défendue par la garde de Guingamp, à la tête de laquelle il y avait un capitaine qui s'appelait Capitaine Gwicket, et qui a bouté les traîtres et les Français hors de la ville. Et je crois, je me trompe peut-être sur la date, mais c'est autour de 1488, il me semble, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être de quelques années, mais pas beaucoup. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Donc, c'est une petite ville, mais qui a son importance dans l'histoire de Bretagne, ancienne, et dans l'histoire actuelle, puisque c'est une sous-préfecture. C'est une sous-préfecture. Qui est situé en bord de quatre voies. Alors, les quatre voies, c'est nos autoroutes à nous qu'on ne paye pas, voilà, qui sont gratuites, et puis qui est sur la ligne de train Paris-Brest ou Rennes-Brest, ça dépend comment vous situez. Donc c'est quand même très facile de s'y rendre. Et effectivement, c'est un peu loin des flux touristiques, mais ça vaut le détour. Hein. On est entre terre et mer. Alors on est dans ce que nous, on appelle l'argoate, c'est le mot breton pour dire l'intérieur des terres, en opposition un peu à l'Armor, c'est-à-dire les côtes. Mais on n'est pas très loin des côtes, hein, on est à 20 minutes de la plage, pour ceux que ça intéresse.
Voilà. Donc, on est bien à Guingamp avec Gaël Roblin. Il nous propose maintenant un premier morceau de musique.
Ah bah, on va faire simple, hein. On va écouter Brogoz Mazadou, qui est devenu l'hymne national breton, voilà, et qui, c'était la vocation même, c'est le même que les Gallois et les Corniques, nos cousins de l'autre côté de la mer, on en reparlera. Alors on le chante un peu dans toutes les occasions possibles, festives, revendicatives ou sportives. Hein. Les Rennais le chantent au début de chaque match du SRFC, hein, du club de foot de Rennes, qui lui est toujours en Ligue 1, mais qu'on a battu deux fois en Coupe de France.
Et qu'on écoute maintenant.
Libres is a galon kawaman tu y vois brûlés et en avant et avait trop d'eau tu spon kreis a brisen on ta du kemat as kuyas eviti Ma
auf sein Kurs, du aber warst, nös pro alla Garon, kämen Bars haben. Denn wenn es betrauen, dann hat er so kehrt, in der Kuspe am
Gaël Roblin, on vient d'écouter cet hymne national. Qu'est-ce qu'il dit en quelques mots? On ne va pas le traduire.
Bon, on ne va pas le traduire, mais bon, il a les atouts et les défauts de tous les hymnes nationaux. C'est-à-dire que bon, c'est un chant qui s'est inspiré directement de l'hymne national gallois, qui est la même mélodie et sensiblement des paroles assez proches. Il a été traduit par, je crois, Taldir Jaffrénou, qui était un militant nationaliste breton, un peu ancienne école. On va dire, il a fait ça, si mes souvenirs sont exacts, avant la Première Guerre mondiale. Et en tout cas dans la première partie du XXe siècle, du balbutiement. Et on y chante de façon assez mimétique ce que racontent les Gallois, c'est-à-dire l'amour pour le pays breton, avec un côté un petit peu désuet, et voire même obsolète, puisqu'on n'échappe pas aux clichés nationalistes les plus éculés dans cette chanson, qu'on a le droit de critiquer, hein, c'est pas grave, disant que notre pays est le plus beau, et que, bon, sous-entendu, pas les autres, voilà. C'est pas forcément des propos que moi je tiendrais spontanément comme ça, mais c'est une chanson moi je trouve évoque bien le rapport des Bretons à la Bretagne, c'est-à-dire voilà, c'est quelque chose d'un peu ambivalent. On est breton, on est français, mais quand même on a une histoire un peu distincte. Est-ce qu'on est vraiment français? Enfin, c'est tout un débat entre nous. On n'est pas tous d'accord. Il y a plein de façons de se sentir breton. Chacun a la sienne, mais il y a la façon qui est décrite dans la chanson qui est un peu obsolète. Et puis il y a des gens qui disent que le titre, c'est Brocos Massadou, ça veut dire le vieux pays de mes pères. C'est la traduction littérale du titre gallois.
D'accord.
Et alors il y a beaucoup de femmes à juste titre qui disent oui, on pourrait aussi dire le vieux pays de nos mères, parce que sans elles ça ne fonctionnerait pas. Et elles ont bien raison. Donc c'est aussi pour ça que ce titre est un petit peu suranné et obsolète. Mais moi ça m'arrive de le chanter, voilà.
et on espérait qu'il sera longtemps chanté encore en Bretagne. Alors vous Gaël Roblin, puisque vous chantez cet hymne national, je pense que vous avez sucé la langue bretonne très tôt dans votre vie.
J'y ai été confronté très tôt, mais je l'ai apprise assez tard. Alors en fait, moi je, en Bretagne, la majorité des familles ont arrêté de transmettre la langue dans les années 50. Voilà, de façon familiale. Alors quand je dis la majorité, ça veut dire qu'il y a bien une minorité qui a continué, mais c'était une minorité assez discrète dans ces années-là. Et ça s'est fait, l'arrêt de la transmission familiale a succédé à donc on va dire dans les années 50, a succédé à une longue période de persécution sociale qui ont marginalisé la langue bretonne à travers l'interdiction de l'usage de la langue bretonne dans les écoles, comme pour l'occitan, comme pour les autres langues parlées dans l'État français. Mais dans les années 50, il s'est passé un autre phénomène, c'est que par souci de garantir aux enfants une ascension sociale qu'on associait à la langue française, on arrêtait de leur parler en breton à la maison. Et le français s'est peu à peu imposé dans la majorité des foyers de la Bretagne. Donc, moi, je suis né en 1972, c'est bien après, voilà. Et donc, je suis né, alors, pour situer pour les auditeurs, je suis né l'année de la grande grève du juin français à Saint-Brieuc. C'est la ville où habitaient mes grands-parents. Et c'était une grève un peu emblématique des ouvriers bretons d'une usine qui s'appelait le Juin Français, qui faisait grève pour avoir le même salaire que leurs alter-ego de la même entreprise qui était située ailleurs dans l'État français. Alors, c'est l'époque où les salaires n'étaient pas... Il n'y avait pas le SMIC encore. On pouvait avoir des disparités importantes, plus importantes que maintenant encore. Et puis, c'est une grève qui est devenue un petit peu un emblème de la prise de conscience bretonne liée aux revendications sociales. C'est aussi l'année où Alan Stivell passe à l'Olympia, 1972, et où sort ce disque qui a fait date et que moi, avec lequel j'ai grandi et qui était chez mon père. C'est Alan Stivell à l'Olympia, qui incarne le revival de la chanson bretonne, voilà, et de la langue bretonne, et son alliance avec ce qu'était la modernité de l'époque. Cette ambiance pop folk un peu revendicative, voilà, et qui a un peu permis la renaissance de l'expression musicale spécifiquement bretonne. Donc voilà, et à l'époque, on transmettait plus beaucoup le breton en famille. Moi, mes parents étaient bien incapables de le faire. Mais par contre, il se trouve que ma grand-mère me parlait de son enfance à elle dans les années 20, où elle ne parlait pas un mot de français et où, quand elle est arrivée à l'école, on lui a interdit de parler breton. Et ça m'avait toujours beaucoup intrigué. Et puis, il y avait... mon père est revenu habiter... Moi, je suis né en région parisienne. Mon père est revenu habiter en Bretagne. Il y a eu cette confrontation avec les voisins de mon père, qui étaient tous des locuteurs de breton, beaucoup plus âgés. Et ça m'avait beaucoup intrigué. Et bon, tout ça m'a poussé... à m'inscrire au lycée à Saint-Brieuc en option breton quand j'étais en première. C'est là que j'ai commencé un peu à apprendre. Et puis j'ai aussi un peu appris avec les anciens sur les allées de boules du village. Et puis après, ça a été un long processus chaotique comme mon parcours scolaire. Et au final, voilà, c'est une langue que je me suis appropriée quand j'avais pas largement passé la vingtaine d'années. Mais c'est devenu la langue que je parle maintenant sur mon lieu de travail, puisque je suis coordinateur de la Fédération des associations culturelles bretonnes du Pays de Niamey. Et c'est la langue que je parle à la maison avec ma fille, qui a été élevée en breton par moi et par sa maman. Et c'est la langue qu'elle parle à l'école. Comme quoi, le combat n'est jamais perdu. Voilà, quand on veut, on peut, voilà.
Mais écoutez, on a compris que vous êtes imprégné maintenant de breton et que ça vient en breton dans votre esprit avant de venir en français. Et vous nous proposez un deuxième morceau de musique ?
Oui, et c'est un morceau d'une chanteuse qui s'appelle Nolwenn Korbel, qui est originaire de Douarnenez. Alors c'est à l'autre bout de la Bretagne, sur la pointe... sud-ouest du Finistère, mais je crois qu'elle a des origines très gauloises aussi, c'est-à-dire du côté de Guingamp, il me semble, et c'est une chanteuse qui était présentatrice de TV quand moi j'étais adolescent, et elle était un peu plus âgée que moi, mais elle était quand même jeune, et j'ai trouvé ça merveilleux de voir une personne jeune qui parlait breton à la télé. Ça m'a donné beaucoup envie d'apprendre le breton. Et par ailleurs, c'est une actrice et une chanteuse talentueuse qui maîtrise plein de langues, et cette chanson s'appelle Dabeler. Et en breton, Dabeler, ça veut dire verrou. Verrou, verrou allons-nous. Donc c'est une belle chanson issue d'une de ses dernières productions. Voilà, c'est une chanteuse qui gagne à être connue, qui n'est pas dans le répertoire traditionnel du tout, hein, qui est plutôt dans la chanson moderne en langue bretonne, et avec des tonalités un peu rock, pas nécessairement sur ce morceau, mais voilà. Et c'est par ailleurs une grande voix, une grande actrice, et c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Voilà.
Oh, vonda belle, ma onol. mein Ohr. Cassette, die Cassette, warum tu birnal? Hachette, die Hachette, qui sépare sur mille dalles. Oh, vonda belle mon or. Oh, vonda unit et de col. Sclapé de flastre, tu réou, que chat. Scars et échangé dans nos yeux, varanés.
Miguel Roblin, nous continuons à parler de cette Bretagne qui a bien sûr, comme tous les pays, une géographie, des mœurs, de la religiosité, des traditions. Mais ce qui nous intéresse le plus à nous dans cette émission occitane, c'est la langue bretonne. Alors, quelle est la situation, par exemple, de cette langue bretonne au niveau de l'enseignement en 2021 ?
Alors, elle est présente dans trois filières d'enseignement. Comme je crois c'est le cas en Occitanie, c'est-à-dire elle est présente depuis 1977 dans ce qu'on appelle les écoles Diwan. Alors Diwan, ça veut dire le germe de la plante qui commence à sortir de terre. Donc ce sont des écoles associatives, immersives, ça veut dire qu'on fait tout en langue bretonne dès la maternelle, et surtout on apprend à écrire et à lire en breton en CP. Donc ça, c'est des écoles qui sont nées dans un environnement très volontariste, très militant. À une époque, en 1977, dans le long mai 68 breton, en s'inspirant de ce qui s'était fait au Québec en français, ironie de l'histoire, et de ce qui s'était fait au Pays Basque avec le réseau chez HK, les Ikastola, qui plus tard, je crois, donneront les mêmes envies aux Occitans qui créeront leur calendrette et les Catalans leur Bressolas. Et donc, c'est un réseau qui a débroussaillé et qui a comment dire, ouais, qui a débroussaillé tout ce qu'on pouvait faire au niveau de l'enseignement pour les enfants dès la maternelle en langue bretonne. Dans son sillage, après la victoire de la gauche aux élections en 1981, on a ouvert une classe bilingue publique dans l'enseignement, on va dire, de la République. La première classe était à Saint-Rivoal, dans les Monts d'Arrée. Elle existe toujours. D'ailleurs, je crois que toute l'école est bilingue maintenant. Et il me semble que c'était la première école, ça devrait être en 1983, je crois, qu'elle est ouverte, cette école-là. Donc, l'enseignement public bilingue depuis, c'est beaucoup développé. Il y a une troisième filière dans l'enseignement catholique, confessionnel, qui s'est construite plus tard encore, plus tard dans les années 80, et qui enseigne à parité horaire, comme dans le public. Alors, c'est pas de l'immersif. Ils enseignent à parité horaire breton-français. Et ça permet à chacun, toutes les personnes intéressées par l'enseignement en langue bretonne, de choisir la filière la plus appropriée par rapport à ses options sociétales ou philosophiques ou de croyances. C'est quand même, moi je trouve que quoi qu'on pense des options des uns et des autres, c'est quand même bien d'avoir le choix. Et ces trois filières scolarisent moins de 20 000 enfants en Bretagne. Alors, moins de 20 000, ça peut paraître peu par rapport à l'ensemble des Bretons habitant en Bretagne, puisqu'il y a environ... Nous, quand on parle de Bretagne, on compte le pays nantais avec. Donc, c'est la Loire-Atlantique incluse. Si on compte la Loire-Atlantique incluse, qui est hors région, on est à plus de 4 millions d'habitants, 4 millions et demi, je crois. On considère qu'aujourd'hui, en Bretagne, il y a environ 200 000 locuteurs de langue bretonne. Pour avoir un élément de comparaison, en 1914, on va dire il y a une grosse centaine d'années, il y avait un petit peu moins d'habitants en Bretagne, il y avait plus d'un million de locuteurs. Donc, la baisse, elle est spectaculaire. Si on met en perspective les chiffres, moins de 20 000 enfants scolarisés en bilingue ou en immersif, c'est peu, mais la première classe d'Imonde qui a ouvert en 1977, je crois qu'il y avait 6 enfants. Voilà, quand on donne des chiffres, c'est comme pour la pandémie. Il faut tout donner pour que les gens puissent se faire une bonne idée.
Progression indiscutible.
Indiscutable. Après, ça ne progresse pas aussi vite que ce que nous, on souhaiterait, puisque, bon, comme partout ailleurs sur le territoire de la République, ces écoles naissent, même dans l'enseignement public, elles naissent beaucoup d'un rapport de force permanent, d'un rapport de force positif à mon sens, un rapport de force qui est la traduction d'une société qui s'engage pour interpeller un État qui, dans le meilleur des cas, indifférent, dans le pire des cas, hostile. Ça dépend des périodes, ça dépend des interlocuteurs qu'on a en face de nous, sur la diversité linguistique qui existe et comment faire vivre cette diversité en Bretagne. Alors maintenant, les filières dont j'ai parlé sont particulièrement présentes en Basse-Bretagne, donc dans la partie ouest de la péninsule, là où la langue bretonne est restée la langue véhiculaire de la société agricole et rurale jusque, on va dire, aux années 50. Mais la langue bretonne, elle suit les flux économiques. Alors dans la partie est de la Bretagne, il y avait une autre langue avant qui s'appelle encore le gallo, qui est une langue romane, qui est proche mais différente du français, qui elle a beaucoup moins bien résisté à la révolution agricole et beaucoup moins bien résisté à la révolution industrielle encore et à l'industrialisation et à ce bouleversement assez unique qu'a subi la Bretagne en un siècle, en même moins d'un siècle, puisque en fait, donc c'était une société essentiellement agricole, on est actuellement dans une société, quand on regarde un peu les statistiques de l'INSEE, majoritairement marquée par des activités de type post-industriel. Donc de la société des loisirs, de la société de services. Donc elle a beaucoup changé en très peu de temps et singulièrement entre 1950 et maintenant. Donc, je m'excuse, la langue bretonne a plus a pu, grâce à un certain volontarisme dont n'a pas bénéficié le Gallo, surmonter ces mutations sociologiques et a suivi la croissance des métropoles et des grandes villes. Donc c'est pour ça qu'on trouve des écoles en langue bretonne à Nantes, à Rennes, à Saint-Nazaire, à Brest, à Saint-Brieuc. Donc voilà, elle a suivi un peu le chemin de l'exode rural vers les villes. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est tout un débat, il y en a qui le regrettent, et je les entends et je les respecte. Ce qui est intéressant, c'est que la langue bretonne a fait son chemin dans ces milieux-là, et on se retrouve maintenant dans une situation un peu inattendue, à laquelle même les partisans les plus acharnés de la langue bretonne n'avaient pas forcément pensé il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas autant anticipé. On se retrouve avec des communautés de locuteurs et de locutrices assez jeunes, en milieu urbain, notamment je pense à la ville de Brest, alors qui est certes tout à l'ouest de la péninsule, mais qui était une ville de garnison, une ville militaire, liée à l'industrie navale de guerre, donc qui était très francophone. Mais bon, dans cette ville, la communauté de locuteurs jeunes est très, très vivante, très perceptible, et puis c'est également le cas à Rennes, dans une moindre mesure à Nantes, parce que la taille de la métropole est beaucoup plus grande, donc c'est beaucoup plus dilué. Et puis bien sûr, en Bretagne comme ailleurs, on accueille beaucoup de gens qui viennent d'autres endroits du monde. Donc on est confronté, au sens positif du terme, à l'existence d'autres groupes de locuteurs, d'autres langues auxquelles on n'avait pas, qui n'étaient pas forcément présents avant. Et donc c'est peut-être moins perceptible dans certains endroits. Moi je dirais que le nombre de locuteurs va continuer à baisser, mais si nous on nous donne les moyens de consolider notre réseau d'enseignement et d'adapter l'usage de la langue bretonne à la société post-industrielle, à la société des loisirs, la langue bretonne aura un avenir. Ce qui n'était pas, je pense qu'on aurait fait cette interview avec quelqu'un de plus âgé que moi il y a une quarantaine d'années, il n'aurait peut-être pas été aussi optimiste. On donnait pas cher de la peau de la langue bretonne il y a une quarantaine d'années. Voilà. Là maintenant, on sait qu'on a un avenir. Alors, c'est un avenir qui va être tortueux, ça va être un chemin sinueux, mais on a un avenir. Parce qu'on a réussi à transmettre la langue bretonne à des générations d'enfants et à des générations de locuteurs qui l'ont apprise autrement, malgré des changements sociologiques importants. Et ça, c'est plutôt un gage de confiance, quoi.
Voilà, on a compris que vous êtes optimiste et que tous les gens qui parlent des langues en France sont aussi optimistes, parce que ce que vous nous décrivez là, ce sont des phénomènes un peu sensibles dans toutes les langues de France, que ce
soit, je pense, ouais,
les autres, et c'est intéressant de vous écouter pour voir votre point de vue et continuer d'écouter un troisième morceau de musique qui serait...
Alors justement, on va écouter un groupe qui s'appelle Beatboîte Trio, qui vient du pays de Redon et qui chante ni en français ni en breton. Qui chante en gallo. Le titre s'appelle Naonet, donc le gallo. Alors le titre, c'est bizarre, c'est Naonet, ça veut dire Nantes en breton, en langue bretonne, et c'est une façon de revendiquer la bretonnité de la ville. Et ce groupe chante le plus souvent en gallo, cette langue romane de Haute-Bretagne qui appartient au Languedoc, hein, en fait, et qui est en assez mauvais état, qui contribue d'une certaine façon, évidemment, à affirmer la bretonnité de la Bretagne. Il y a plusieurs façons de se sentir breton, évidemment. Donc Beatboîte Trio, ils expliquent ça très bien, c'est pour ça que j'ai choisi ça.
No.
On a bien entendu que au niveau de l'enseignement, les choses bougent et devraient continuer à bouger vers le positif. Qu'en est-il au niveau de la signalétique? Est-ce que l'effort a été fait pour que partout, que ce soit dans le domaine de la géographie, dans le domaine de la muséographie, le breton a sa place?
Alors, on peut considérer que ça, c'est une des grandes avancées des 30 dernières années. Alors au début, ça s'est fait de façon très revendicative, et singulièrement autour de Guingamp, puisque c'est là que ça a un peu commencé. Le conseil, à l'époque ça s'appelait Conseil Général des Côtes du Nord, maintenant c'est Conseil Départemental des Côtes d'Armor, a été le premier à poser des panneaux bilingues, des panneaux de signalétique routière sur les routes qui relevaient de sa compétence, parce qu'en fait, il n'avait pas trop le choix, il fallait qu'il cède à ce qu'on appelait les nuits de barbouille, en fait, qui détérioraient avec du coltard, de la peinture, les panneaux directionnels qui étaient monolingues en français. Et puis, les choses se sont un peu dépassionnées, se sont normalisées. Le conseil départemental du Finistère a été, lui, beaucoup plus loin, a été très volontariste sur ces questions-là. Petit à petit, tout le monde suit un peu le mouvement. Dans la dernière convention État-région qui date de 2015 et qui s'appelle Convention État-région sur la sauvegarde, la promotion et l'usage des langues de Bretagne, on a réussi à gagner le fait que sur les routes nationales, peu à peu, on mette en place une signalétique sur ces fameuses quatre voies que nous ne payons pas. Et donc ça se fait doucement, mais sûrement. Après, on a autant d'interlocuteurs qu'il y a d'institutions, donc dans les communes, dans les différentes collectivités locales et territoriales. On a parfois des déboires, le débat s'instaure petit à petit, il y a des communes très avancées sur la question de la signalétique. C'est d'autant plus facile que depuis le début des années 2000, elles sont accompagnées pour celles qui partagent ces objectifs par un organisme qui s'appelle l'Office de la Langue Bretonne, qui est maintenant un office public de la Langue Bretonne, et qui est là pour travailler à la normalisation de la présence de la langue bretonne dans la vie publique et surtout dans la vie institutionnelle. Elle fait signer, cet organisme invite les communes à signer une charte qui s'appelle « Y'a l'arbraison », qui veut dire « Oui à la langue bretonne ». Et les communes s'engagent à différents degrés. Alors, il y a plusieurs paliers, paliers dans le label, il y a quatre niveaux dans le label, s'engage à promouvoir la langue bretonne. Alors, une des premières actions qu'elle s'engage à promouvoir, c'est bien sûr la signalétique. Donc, je crois qu'il y a il y a largement plus d'une centaine de communes consignées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des communes de taille très importante. Je pense à Saint-Herblain, par exemple, qui est dans la banlieue de Nantes. Je pense à Nantes, je pense à Rennes, je pense à Guingamp, évidemment. Je pense à Quimper, qui est très avancé, à la ville de Carhaix, qui est au niveau 4, qui est la seule, je crois, à remplir le niveau 4. Alors, à chaque niveau de cette charte, on progresse dans la normalisation de la place de la langue bretonne dans ce qui relève des compétences de la commune. Alors bon, ça peut être par exemple permettre à ses agents de se former, ça peut être célébrer des mariages en breton, ça peut être donner des livrets de famille bilingues, ça peut être, voilà, bon, il y a différents degrés. Hein, bon, ça permet d'entamer le débat au niveau des conseils municipaux, c'est intéressant, puisque ça donne lieu à des échanges. Et puis, on se rend compte que c'est l'ensemble de ces communes consignées, ça concerne indirectement une part non négligeable de la population bretonne. Ça l'impacte, parce qu'en termes de visualisation, c'est ça qui est paradoxal, hein, la langue bretonne, elle a beaucoup reculé en termes d'usage, mais alors elle n'a jamais été autant visible. donc, sur le bord des routes. Donc voilà, il y a des choses qu'on gagne. Alors, il y a autre chose qui s'est passé, qui a été très important, c'est que le conseil régional, donc les premiers conseils régionaux, pour les gens qui nous écoutent, je crois que les premières élections régionales, elles ont eu lieu en 1982, si je ne me trompe pas. Et pendant très longtemps, le conseiller régional de Bretagne a été dominé par, on va dire, des forces de la droite conservatrice, post-gaulliste, qui n'était pas très volontariste sur ces questions-là. Et elle est restée, c'était le cas jusqu'en 2004. En 2004, la région est passée sous la houlette de Jean-Yves Le Drian, qui a eu un autre parcours depuis, qui à l'époque était au Parti Socialiste, et qui a entamé... en tant que région Bretagne, un travail également de normalisation de la place de la langue bretonne dans la vie publique. Ça s'est accéléré en 2010 par la nomination de Léna Louarn comme vice-présidente de la région Bretagne en charge des langues de Bretagne. C'est une personne assez attachante, qui a un parcours militant très marqué et qui a fait deux mandats dans ce cadre-là. Elle vient d'arrêter là. Hein, voilà. Et ça a permis d'inscrire dans les politiques publiques porté par la région, l'usage de la langue bretonne dans la vie politique locale et le fait que ça devienne un objet de débat et de collaboration et de partenariat entre la société civile, les associations, le monde associatif qui est très dynamique, et les institutions, les collectivités locales, les collectivités territoriales et la région Bretagne. Et je dois dire que pendant très longtemps, ça a été le seul conseil régional à avoir une telle vice-présidence. Alors, je sais qu'après, ça c'était donc avant la loi NOTRe et la constitution des macro-régions. Je sais que maintenant il y a des vice-présidences, y compris sur ces questions-là, y compris en Nouvelle-Aquitaine, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc on a été très pionniers là-dessus, et ça a permis que la langue bretonne devienne un sujet politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est un sujet de débat lors des élections, maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif.
Eh bien, on continue toujours en musique. Nous, vous nous proposez un quatrième morceau.
Alors, un quatrième morceau en breton, de Chris Men. Chris Men, c'est un chanteur qui vit dans l'Argoat, au sud de Guingamp. Qui a la particularité d'être un excellent locuteur, d'être plutôt jeune, il a une quarantaine d'années, et d'utiliser la langue bretonne avec des sonorités rap, hip-hop notamment. Et le morceau qu'on va écouter, il s'appelle Une vraie ou merglette. Une vraie ou merglette, ça veut dire rêve rouillé, voilà. Rêve rouillé, et j'invite les auditeurs à chercher le Chris Men. Alors, ça s'écrit avec un K, et voilà, Chris Men, et c'est Christophe Lemaine, son vrai nom. Et vous allez être agréablement surpris par son flow, voilà.
« Hey, sorve fait bêtis, monde varie, on a pas mon Edward Kiel, Ben Finn et Hand et Angelina Lynn, Belle de Strouzen, Tambouline, Dremena, Kidenil, Atre Sarquipine, Arquin, t'as pas place à morphine. N'a même pas ce pavem l'un, on s'pérait jour où les grains, choix, j'aime même en blanc, ni d'une carte, nous l'aime kit, j'en bantin, tau à tau, un again, nous que les arrêts à glace comme un marin, on a mis à rire la cadre des vêches, ton arrêt pas même de pécap. Mais point, nous y faut, devait en drôle. Ce qui m'aide tu tort, tout cas, des serres, elle ne tourne pas vers toi, les deux distoles, velles, tu peines fortes. L'erreur qui foutrait qu'une de drame, une vie, tu te colles. Tu RM, on aura un vent au phénom. Quête, fait deux, son poté tral, de la laine. Ne ce qui casse, drap, bas, on mal hygiène. Par ailleurs, ne tu bénis qu'est clair, y'aura des noms. A deux, on est varm l'air, ne ce qui casse, tu te gaffes, t'in, même, mire, en qui fout, guerre, canner, en qui casse, gaz, mal, faut te quitter, d'art, ne ce qui d'affaire, d'avant, casse, gaz, on en sert. Une veille, melgue, ta va, nous gère, zéro, d'as, espère, talon, nous disert, sclan, qui a rien down, nous, croire, et marmant, nous, classe, qui te va loin, nous, ciao, nous. Cadron Queller, un trauval vitar et nanke de vlas. Or, un mom says grill, puis j'en ai géré un tâche. Une deux hommes l'homme cache, j'en ma qui m'est restache. Fais le plaisir à rage et him pick a pen and dash. Sous ton gant ou peso trink, à gant ou peso crayon. Trinker aime d'arbre peur et pas leur vie, c'est du et venu gain des ring. Big gates et rentre comme un drain. Son chon met de bébé, bah on drain. N'est qu'un drap et n'a pas de main. À la courant de blé en drain. T'es un gueule rame âme, tu t'es le faire rwanda de jomban tout le main. Tu donnes l'éléphant à la squash rock moog. Niki de rouligot et côté d'arrosour, même dans la baie war, pas avant qu'il dîme. Y'a one qui se gang et le même zim. Dedans de nom gold, la mara cul d'un oeil. On rappe et astral, dremen, un vêtu de folle. Pousse que mes pavillin, but though we gonna queen. Sortra au sober, roi arvin, à la ronde qui est trois arvin. You kin, tol you va la vie sur pas crazy, on oblige à dire you. Bavro pas nom lara ondine, pelar ne s'bé dans ma nature. Une veille melgue, ta va nous gère. Zéro d'as expert, talon nous disert. Sclan qui a rien down, nous croire et marnant. Nous classe qui fait loin, nous tiaou nous.
Gaël Robler, on a compris qu'il y avait donc de nouveaux chanteurs, parce que nous, on connaît les historiques. Est-ce que cette force du chant qui a permis aussi, je pense, à Bretagne de continuer à valoriser cette langue, votre culture, est-ce qu'aujourd'hui, ce nombre de groupes qui se réclament, de groupes bretons, existe toujours?
Il y a eu clairement l'apparition d'une génération de chanteurs et de chanteuses assez décomplexées au cours de la dernière décennie, même celle d'avant, qui n'utilisent presque plus le support de la musique traditionnelle et mettent la langue bretonne au milieu de sonorités issues du répertoire non traditionnel, aussi plutôt de répertoire contemporain. De sonorité très contemporaine en tout cas, ça contribue effectivement à la normalisation de la langue bretonne dans notre imaginaire collectif, dans notre réalité quotidienne aussi, parce que ça permet, ces groupes-là sont souvent programmés. À mon sens, il n'y en a pas encore assez. On sent bien que la langue bretonne n'a pas encore pris le malgré quelques balbutiements prometteurs de quelques groupes, elle s'est pas encore engouffrée dans la vague néo-pop, dans la vague, on va dire, du rap actuel. Mais ça va venir, on sent que ça balbutie, ça mériterait un coup de pouce sans doute, faut qu'on y réfléchisse. Mais oui, ça, c'est évident que... Il y a eu tout un travail qui avait été entamé dans les années 70 par des chanteurs un peu revendicatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, Alan Stivell, Gilles Serva, Glenn Moore et d'autres. Et puis ça s'est un peu... Il y a eu clairement un reflux dans les années 80, qui n'étaient pas des années très favorables à l'épanouissement de voix un peu différentes. Et puis, malgré ça, ouais, au cours des années 2000, on a vu la réémergence d'un intérêt du public et d'une grande créativité de beaucoup d'acteurs de la vie culturelle bretonne sur ces questions-là. Et bon, à mon goût, elles n'ont pas assez d'espace pour se produire, mais bon, petit à petit, elles trouvent leur place dans les festivals, au milieu, à côté d'autres artistes. Elles ne trouvent pas assez leur place sur les scènes subventionnées, ça c'est une revendication, mais bon, ça existe, c'est dynamique, c'est visible, c'est audible, voilà.
Et c'est actuel, et c'est très bien.
Et c'est actuel, voilà.
Et justement, en parlant de ça, il y a la force aussi de cette culture bretonne, c'est qu'il y a une diaspora bretonne dans plusieurs grandes villes qui se réunit toujours pour fêter ces traditions. Je pense qu'il y a une association bretonne à Paris, il y en a certainement un peu partout dans le monde, parce que vous avez été de grands voyageurs et vous êtes toujours encore des gens qui aiment aller voir ailleurs.
Bah, ça, c'est sûr que bon, les Bretons se sentent jamais autant bretons que hors de Bretagne. Ça, c'est très...
C'est général,
c'est bien vrai. Ouais, c'est bien vrai. Concernant la région parisienne, c'est un cas à part, puisque là, il y a profusion d'associations bretonnes. Alors, bon, elles ont été créées un peu, et elles ont grossi au fur et à mesure que la migration bretonne, ou les vagues de migratoires bretonnes vers la région parisienne se sont accentuées au cours du XXe siècle. Et elles étaient souvent chaperonnées par... on va dire les entités qui incarnaient les débats de l'époque, hein. C'est-à-dire qu'il y avait les associations confessionnelles qui trouvaient par là une façon de garder leurs ouailles dans leur giron et qu'elles n'aillent pas perdre leurs âmes à Paris, dans la grande ville. Et puis, donc, c'est le cas, par exemple, d'une association qui existe toujours, qui est très dynamique, qui s'appelle la Mission Bretonne, qui est située dans le 14e arrondissement, et qui mène un travail de transmission des fondamentaux de la culture bretonne et de la langue bretonne, qui est assez admirable et sans discontinuité aucune depuis plus d'un siècle, et qui est vraiment issue de ce secteur-là de la société, c'est-à-dire des prêtres catholiques qui étaient autour de Montparnasse, d'ailleurs dans le quartier breton, hein, de la capitale. Et puis il y avait aussi toutes les associations culturelles bretonnes qui étaient dans l'orbite du Parti communiste. Alors c'est un parti qui a beaucoup moins de force maintenant, mais qui dans les années 20-30 avait beaucoup de Bretons à sa tête et qui alors avait mis en place sa propre fédération culturelle bretonne, qui existe toujours d'ailleurs, et d'associations extérieures à la Bretagne. Et alors, ce qu'on ne sait pas trop, ce que tout le monde n'explique pas, c'est que la première fois que le drapeau breton, que tout le monde connaît maintenant, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un avec un drapeau breton dans un festival ou dans un match de foot, ou dans, la première fois qu'il a été montré en public, ce drapeau, c'était sur le stand des Bretons émancipés lors de l'exposition universelle à Paris, en 1923. Et les Bretons émancipés, c'était une association de Bretons présidée par Marcel Cachin, dirigeant du Parti communiste français, qui était originaire de Paimpol, pas très loin de Guingamp, et qui était lui-même un excellent locuteur. Et alors, l'anecdote est intéressante, puisque ce drapeau, il a effectivement été créé pas du tout par des gens issus de ce secteur-là, mais par des gens qui étaient des nationalistes bretons, plutôt conservateurs. Voilà. Et plutôt sur des options politiques opposées à celles qu'incarnait le Parti communiste à l'époque.
Voilà. C'est la beauté de l'identité.
Quand on... c'est l'ironie de l'histoire, ouais.
C'est l'inconscient collectif.
Exactement.
On a des mœurs, on a une religiosité, on a surtout une gastronomie, parce que bon, le temps passe, on parlerait longtemps, vous êtes passionnant, Gaël Roblet, mais une émission a un début et une fin. Alors, les gens connaissent surtout la Bretagne pour aussi ça. On a bien dit l'Argoat et l'Armor, c'est surtout l'Armor qui est connu, mais il y a aussi la gastronomie bretonne. Qui n'a pas mangé de crêpes, qui ne rêve pas de galettes saucisses? Ça perdure aussi.
Oui, évidemment. Je vous avoue que je ne suis pas le plus calé sur la question, mais évidemment, c'est quelque chose qui est valorisé malgré une certaine normalisation on va dire, de notre façon de consommer à tous. Hein, dans le monde occidental, on consomme tous un peu la même chose maintenant. Mais malgré ça, c'est vrai, la Bretagne a su garder ses particularités, en tout cas certaines, particularités culinaires. J'espère qu'elle ne gardera pas que ça.
Mais c'est fait partie du savoir-être et breton aussi, de la transmission. Et sans oublier le cidre, évidemment. Nous, on est un pays de vin ici, mais vous êtes le pays du cidre.
Ah oui. Alors, attention, parce que sur la question des boissons, on est le pays du cidre, mais on est aussi un pays à bière. Il y a énormément de... Il y a une culture brassicole forte en Bretagne. Qui n'est pas récente, mais qui a eu un renouveau assez récent, à partir des années 80. C'est un vrai phénomène de société. Voilà. Et alors, sur la question viticole, bon, on ne va pas faire concurrence, bien sûr, à ce qui est produit en Occitanie, ou dans la grande Occitanie historique, j'allais dire. Mais il y a une tradition viticole en Bretagne, en tout cas en Pays Nantais, elle est claire. Après, je ne me lancerai pas dans des débats ni dans la promotion de boissons alcoolisées à Nantes. Mais bon, ça existe aussi. Mais c'est bon, il y a peu de vin rouge, évidemment.
Muscat et soie qui mal y pensent. Donc voilà. Et écoutez, Gaël Robles, on vous remercie parce que vraiment, on a appris plein de choses sur la Bretagne. Est-ce que vous voulez nous chanter une petite chanson bretonne pour terminer cette émission, puisque je sais que vous chantez? Quel est le breton qui ne chante pas, d'ailleurs? C'est ce qui fait la force de ces cultures dites minorisées. Quand vous allez au Pays Basque, les gens chantent. Quand on va en Bretagne, si on va à un morceau de musique, souvent, les gens chantent. C'est un peu votre force d'avoir gardé cette envie de chanter la vie dans cette langue.
Notamment. Alors, écoutez, je vais vous fredonner une chanson. C'est la première chanson que j'ai apprise en breton. C'est la chanson avec laquelle j'ai bercé ma fille. Elle aime bien que je chante maintenant, même si elle a 10 ans. Et c'est une chanson qui est intéressante parce qu'elle a été écrite par Youn Guernic, qui était un breton qui était originaire de Gourin, qui vivait à New York, qui a été un compagnon de route et de boisson de Jacques Kerouac, le poète de la beatnik génération. Et cette chanson, c'est « Crazy on Nose ». Ça veut dire « au cœur de la nuit ». Et elle dit « au cœur de la nuit, j'entends le vent qui souffle sur le sommet de la maison. Souffle, souffle, petit vent, tu souffles la liberté, notre liberté. » Donc, je trouve que c'est plutôt une balade apaisante, mais les paroles sont pleines d'espoir. Même quand c'est la nuit, la jonc ne plie pas. Il parle de ça dans la chanson. Il dit que la jonc ne plie pas sous le vent et que le vent souffle notre liberté. Donc, ça fait ça. Et crèze en nos, mais glève en avello, vlejal war legnanti. Et crèze en nos, mais glève en avello, vlejal war legnanti. Avel, avel, y crèzita, l'an nem gandana, ou l'an quand y buan, quand ar franquise dionni. Voilà, ça c'est un couplet. Voilà.
Eh bien, merci Pla, Gaël Robles, merci à Damien pour le montage technique de quelle émission, merci à vous autres, car vous avez dit tout d'être passé un petit moment en Bretagne, comme vous conseille des visitas, et puis une pas ou per toutes, las lengo que son aquí, mais qu'elle les parla, qu'elle les canta, qu'elle las biure. À bientôt, Gaël Robles.
Allez, chat.
Qu'en a vous.
C'est parti. Thank you. Happy birthday.